13h à Paris, 1h de moins en temps universel, vous écoutez RFI. Le grand journal international. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour Clotilde et bonjour à toutes et à tous. À la une, le Congo, Kinshasa, et on va faire le point avec notre correspondant. À la fois à Goma, où on a encore entendu des tirs ce matin, et à Kinshasa au lendemain, des manifestations qui ont ciblé plusieurs ambassades. À suivre encore un reportage à Gaza, la fin des combats là-bas, c'est aussi l'entrée de nourriture. 15 morts au moins en Inde à l'occasion d'un grand pèlerinage hindou. On parlera aussi dans ce journal du plan de la Commission européenne pour relancer la compétitivité de l'Europe au détriment de l'agenda environnemental et écologique. Et puis, à la fin de ce journal, on découvrira qui sont les nominés pour la prochaine cérémonie des Césars du cinéma français.
RFI Midi. Mais on commence donc, Florent, avec la situation à Goma en RDC.
Oui, des tirs ont été entendus ce matin dans la grande ville de l'est du Congo, Kinshasa. Des tirs qui ont cessé depuis. Pour les habitants, la situation est toujours compliquée. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Le signal de la radio-télévision nationale congolaise est aussi hors service. Et puis à Kinshasa, la tension demeure palpable après les violentes manifestations d'hier devant plusieurs ambassades. On retrouve en direct de la capitale congolaise notre correspondant Patient Ligaudi. Patient, ce matin encore, certains quartiers de Kinshasa connaissaient des tensions sporadiques.
Oui, Florent, ce matin encore, la fumée s'échappait de la toiture de l'ambassade de France, conséquence de l'incendie provoqué par les manifestants hier. La police a renforcé sa présence, notamment devant l'ambassade de Belgique et celle des États-Unis. Dans certains quartiers, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants. Certains vols vers l'Europe ont été annulés, tandis que certains ressortissants étrangers ont préféré quitter la capitale par le port de Bitchungobila, direction Brazzaville. À Goma, le calme est revenu, mais la situation reste dramatique. Les tirs entendus ce matin ont cessé, mais les hôpitaux continuent d'accueillir des blessés et les morgues ne désemplissent pas. Devant l'hôpital Charité, par exemple, un homme effondré raconte avoir perdu 7 membres de sa famille, dont 3 corps ont été retrouvés. D'autres familles parcourent la ville à la recherche donc de proches disparus. Et dans plusieurs quartiers, des combattants du M23 sont visibles et la psychose persiste. Les commerces qui avaient rouvert dans la matinée ferment à nouveau par crainte de nouvelles violences. Pendant ces temps, le président Félix Tshisekedi prépare une prise de parole ce mercredi.
Patient Ligaudi en direct de Kinshasa.
Également dans l'actualité africaine, la CDAO qui perd 3 membres aujourd'hui.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger après les coups d'État militaires, et les 3 pays ont fondé l'Alliance des États du Sahel. Résultat, aujourd'hui, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ne compte plus que 12 pays membres.
Et on va y revenir dans Afrique Midi avec Oumar Berthé, avocat, politologue malien, chercheur associé à l'université de Rouen. Dans le reste de l'actualité, la Russie veut lancer les bases d'une nouvelle relation avec la Syrie.
Ah oui, le pays qui a protégé presque jusqu'au bout Bachar el-Assad affirme aujourd'hui son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Syrie. À l'issue d'une visite à Damas d'une délégation de la diplomatie russe, première visite de ce genre depuis l'exil à Moscou de Bachar el-Assad.
Toujours dans la région et au chapitre diplomatique également, la visite en Israël de l'envoyé spécial de Donald Trump.
Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou avant de se rendre dans la bande de Gaza, où il pourra voir de ses yeux combien le cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre soulage la population palestinienne. La levée des restrictions israéliennes sur l'entrée de l'aide humanitaire, l'entrée des marchandises, eh bien, ça change un peu la vie des Gazaouis. Reportage de notre correspondant à Gaza, Rami El-Merari, avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Dans ce marché du centre de la bande de Gaza, la différence est notable. Avant la trêve, le kilo de poulet coûtait 85 shekels. Désormais, c'est 25 shekels. Et cette baisse a eu lieu du jour au lendemain. L'accord de cessez-le-feu prévoit l'entrée de 600 camions d'aide et de marchandises chaque jour dans la bande de Gaza, soit autant qu'avant la guerre. Cela faisait 5 ou 6 mois que je n'avais pas reçu de colis d'aide alimentaire, raconte ce père de famille qui vient d'obtenir un sac de farine de 25 kilos. Une aide essentielle, poursuit-il. Je n'ai plus de travail à cause de la situation actuelle. Pour moi, trouver de quoi nourrir mes enfants ou subvenir à leurs besoins est un défi quotidien. Oui, en plus de l'aide humanitaire, les marchandises sont de nouveau disponibles. Mais on n'a plus de revenus. Comme lui, beaucoup de Gazaouis ont perdu leur emploi durant la guerre. Les bombardements ont détruit les maisons, les usines, les administrations. Avec l'arrêt des combats, l'activité reprend timidement. Durant les 4 derniers mois, j'ai complètement fermé mon commerce. Je n'avais plus rien à vendre. J'ai rouvert avec la trêve. Je vends des tomates, des choux-fleurs, des pommes de terre. Mais les prix restent encore très très chers. Rami El Merari, Gaza, Sami Bourtia, Jérusalem.
Et Gaza a été cité en exemple hier par la Maison-Blanche aux États-Unis pour justifier le gel de toute aide à l'étranger de la part des États-Unis. Oui, l'exemple, tenez-vous bien. Des préservatifs qui seraient distribués dans la bande de Gaza pour 50 millions de dollars selon la porte-parole de la Maison-Blanche qui parle d'un gaspillage presque grotesque.
Oui, et puis ça pourrait aussi avoir des conséquences dans la lutte contre le sida. On va reparler dans quelques minutes après ce journal avec le médecin épidémiologiste Eric D'Ortenzio. L'heure est effectivement aux économies, Florent, tous azimuts aux États-Unis.
Oui, outre l'aide à l'étranger, le gouvernement Trump a décidé hier de suspendre toutes les subventions fédérales, provoquant un tollé, y compris chez certains élus républicains, qui est notamment pour le système de santé. Alors, hier, face à la confusion provoquée par ces annonces, face aux inquiétudes, la Maison-Blanche a tenté de rassurer RFI Washington, Guillaume Nodin.
Ces jours de rentrée à la Maison-Blanche, la salle de presse est comble pour le premier rendez-vous du mandat avec la nouvelle porte-parole et les premières questions portent sur le gel massif des financements décidés par l'administration qui crée de l'inquiétude et de la confusion. Caroline Leavitt tente de rassurer.
Si vous recevez une aide individuelle du gouvernement fédéral, cela va continuer. Cependant, il est de la responsabilité de ce président et de cette administration d'être les gardiens de l'argent du contribuable. Le président Trump a fait campagne là-dessus. C'est pourquoi il a lancé le DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale. Et c'est pour s'assurer que chaque centime déboursé n'entre pas en contradiction avec les décrets que le président a pris. Le président prend soin de vous parce qu'il est le gardien de l'argent du contribuable.
Sauf que dès l'annonce, les services de l'assurance santé pour les plus démunis de plusieurs États ont cessé de fonctionner. Cela concerne tout de même plus de 70 millions d'Américains. Les responsables de l'administration font savoir que la situation va être rapidement réglée. La décision est de toute façon déjà bloquée à la suite de l'action en justice de plusieurs États démocrates. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Il est 17h37 à New Delhi, l'Inde, où un pèlerinage a tourné au drame.
Et ce n'est pas n'importe quel pèlerinage, c'est la Kumbh Mela qui n'a lieu que tous les 12 ans, le plus grand pèlerinage hindou avec des millions et des millions de participants. Et cette nuit, il y a eu une bousculade qui a tué au moins 15 personnes. Des centaines de blessés ont été hospitalisés, car le Tamorteo, le bilan est encore incertain.
L'incident s'est déroulé dans la nuit vers 1h du matin. Une foule compacte de 10 000 personnes environ marche vers les berges et les pontons à la confluence des eaux du Gange et du Yamuna pour effectuer le bain rituel de purification. Mais malgré l'important dispositif mis en place pour orienter les flux, certains se sont visiblement retrouvés agglutinés avec des difficultés pour respirer. La panique a déclenché une bousculade. Des femmes, des personnes âgées sont tombées et se sont fait piétiner. Les secours sont rapidement intervenus, mais la Kumbh Mela va durer encore un mois. 400 millions de visiteurs sont annoncés. C'est un événement religieux qui est aussi une vitrine politique pour le gouvernement nationaliste de Narendra Modi. Plus de 800 millions d'euros ont été dépensés pour sécuriser le site, construire des routes, des ponts, des toilettes. Alors ce matin, dans la foulée de l'accident, les critiques n'ont pas traîné. L'opposition a mis en cause les privilèges et la préférence accordée aux personnalités qui ont payé cher leur place plutôt qu'aux simples fidèles. Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent quant à eux le manque de panneaux d'information dans d'autres langues que le hindi ou l'usage de la force par la police pour contrôler les foules.
Carlo Tamorteo du service international de RFI.
La guerre en Ukraine qui continue.
Oui, qui est aussi la guerre en Russie, en témoigne cette nouvelle attaque massive de drones ukrainiens contre des installations pétrolières et électriques russes. On signalait une raffinerie en feu et puis Moscou a aussi affirmé qu'une centrale nucléaire avait été visée. Mais sans dégâts, la Russie qui dit avoir abattu plus de 100 drones. Et dans la région de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, une mère et son enfant ont été tués.
Encore un record battu par le fonds souverain de la Norvège.
C'est le plus gros fonds souverain au monde, avec encore un bénéfice record l'an dernier de 214 milliards d'euros. Ça représente un gain de 7000 euros chaque seconde.
Et puis l'économie aussi, Florent, en Europe.
Avec l'insolente santé de l'Espagne qui a affiché l'an passé une croissance économique de 3,2%, alors que dans la zone euro en moyenne, la croissance a plafonné à 0,8%. L'Europe face au risque de décrochage économique, l'Europe distancée par les États-Unis et la Chine, et l'Europe qui tente donc de redresser la tête. La Commission européenne, dans moins d'une demi-heure, va dévoiler son plan en faveur de la compétitivité avec un objectif déjà annoncé, s'attaquer aux normes, ces foutues normes qui empêchent par exemple de polluer tranquille, Simon Rosé, le pacte vert européen va faire les frais de ce désir de compétitivité.
Et c'est même une attaque en règle que subit le pacte vert européen. 80 textes, la feuille de route de l'Union pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Il est aujourd'hui, aux yeux de la droite et de l'extrême droite, désigné responsable de tous les maux. Une offensive à laquelle se joignent de plus en plus d'États, Hongrie et Italie de longue date, Allemagne, Pologne ou encore la France plus récemment. Le pacte vert serait un frein à l'activité européenne. Plusieurs mesures apparaissent ainsi menacées à l'occasion de la présentation de cette boussole de la compétitivité. Le devoir de vigilance impose par exemple aux entreprises de veiller au respect de l'environnement et des droits humains dans leur chaîne de production à travers le monde. Paris demande un report à une date indéfinie de sa mise en œuvre. Délai également pour l'application de la CSRD, directive qui oblige les grands groupes à produire des rapports sur la durabilité de leurs activités. Assouplissement des normes qui s'appliquent à l'agriculture sur l'usage des pesticides. Ici, les doléances sont nombreuses. Reste à voir ce qu'en retiendra effectivement la Commission. Ursula von der Leyen, sa présidente, se veut rassurante, répète que simplifier ne veut pas dire déréguler. La frontière est cependant ténue et de son respect dépend celui des engagements européens en matière climatique et environnementale.
Simon Rosé, le chef du service climat-environnement de RFI.
Le débat politique français secoué ces dernières heures par les propos polémiques du Premier ministre.
François Bayrou, qui a repris à son compte une expression chère à l'extrême droite sur la submersion migratoire. Alors évidemment, le Rassemblement national applaudit, la gauche elle est indignée, les socialistes menacent de voter la censure sur le budget. Résultat, le gouvernement est fébrile. La porte-parole, Sophie Primas, a même accusé ce matin le PS de prendre le budget en otage.
Les négociations sont en cours, les membres de la commission mixte paritaire sont en train de discuter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune prise d'otage de quelque nature que ce soit sur le budget et l'adoption du budget pour la France. C'est le sujet numéro un pour notre pays. Nous devons véritablement aboutir à une CMP positive et les négociations sont en cours aujourd'hui. Je note d'ailleurs que le député socialiste qui négocie dans le cadre de cette CMP, qui fait partie de cette commission mixte paritaire, Philippe Brun, a dit sur une antenne ou sur une radio qu'il s'agirait d'un cataclysme si jamais nous n'adoptions pas ce budget. Et donc, en responsabilité, tout le monde continue de négocier.
La porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, au micro de Charlotte Turien-Tomaka.
Et puis le cinéma français avec les nominations pour la prochaine cérémonie des Césars.
Qui aura lieu dans un mois, tout juste le 28 février. Et trois films sortent du lot et raflent à eux seuls 39 nominations. Il s'agit du Comte de Monte Cristo, de L'Amour Ouf et puis d'Emilia Pérez, Vengeance, Amour et transition de genre, Olivier Roger. Les Césars, en tout cas, mettent en avant les trois plus grands succès en salle l'an passé.
Oui, et les trois succès populaires qui ont largement contribué à relancer l'industrie du cinéma dans l'Hexagone l'an dernier sont en tête des nominations. 14 rien que pour le Comte de Monte Cristo, cette histoire de vengeance aux 9 millions d'entrées en salle est le grand favori de la compétition et le comédien Pierre Niney est en lice pour le César du meilleur acteur. Autre succès populaire, L'Amour Ouf de Gilles Lelouch avec le duo Adèle Exarchopoulos et François Civil. Il est en lice dans 13 catégories, dont celle du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Enfin, le film français qui fait le plus parler de lui dans le monde, cette comédie musicale de Jacques Audiard, est en course dans 12 catégories. Emilia Pérez, où la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain a déjà été plébiscitée aux États-Unis et devrait l'être encore lors de la prochaine cérémonie des Oscars à Hollywood. Jacques Audiard, qui a déjà remporté 10 Césars dans sa carrière, est en course pour la récompense du meilleur réalisateur. Enfin, le film de Boris Lochkine, l'histoire de Souleymane sur l'odyssée tragique d'un sans-papier guinéen à Paris, est en lice dans cette catégorie, dont celle de la meilleure révélation masculine pour l'acteur Abou Sangaré.
Qui a obtenu d'ailleurs
C'est papier, tout récemment. Merci Olivier Roger. Il est 13h, presque 13h15 à Paris. C'est la fin de ce journal, mais RFI Midi continue avec vous, Clotilde Dumais.
Et merci beaucoup Florent Guignard, on passe au sport. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Alors rien que du football ou presque en programme, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la Ligue des Champions est à l'honneur aujourd'hui, dénouement ce soir de la phase de poule. Huitième journée qui peut réserver encore quelques bonnes ou mauvaises surprises à certains.
Ouais, beaucoup d'interrogations encore effectivement à l'aube de cette dernière journée d'une, il faut le dire, emballante phase de poule unique. On le savait, c'est une première et cette nouvelle version a convaincu, semble-t-il, un franc succès à faire taire les sceptiques. 18 matchs donc ce soir, du jamais vu, le plus grand multiplex de l'histoire, carrément une soirée à 55, 60, 65 buts sans doute, à vivre, vous savez quoi, vous savez où?
Alors partout en Europe.
Ouais, bah, enfin, nous, on est sur RFI. Nous on est sur RFI, donc c'est plutôt à vivre d'abord chez nous, du premier au dernier but, prise d'antenne 19h40 temps universel.
Alors une soirée Olivier et des questions hein qui restent.
Ouais, et qui dans le top 8 avec Liverpool et le Barça déjà assurés d'en être. Les Reds visent carrément un 8e succès de rang à Eindhoven. Le Barça reçoit l'Atalanta Bergame. Anglais et français réaliseront-ils le sans faute tous les clubs engagés qualifiés pour la suite? Y aura-t-il des cadors au tapis?
Et parmi eux le PSG hein, Olivier.
Oui, effectivement, il fait partie des cadors, en tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Paris à Stuttgart, dans le plus grand des suspens. Les deux équipes qui comptent 10 points dans ce classement unique ne sont pas encore définitivement qualifiées pour les barrages de février. Et si les Parisiens 22e abordent ce rendez-vous avec plus de confiance, une semaine après leur victoire contre Manchester City, le défenseur Lucas Hernandez se méfie, a raison. Lui qui connaît bien Stuttgart et la Bundesliga pour avoir joué 4 saisons au Bayern Munich, il est au micro de Cédric De Oliveira.
J'ai déjà joué ici avec mon ancien club. C'est vrai que voilà, on sait qu'ici en Allemagne, il y a toujours des bonnes ambiances dans les stades. Les supporters sont toujours là, sont toujours présents, et encore plus dans ce type de match. Hein. C'est vrai que voilà, on va s'attendre à un match pas facile, bien sûr, avec beaucoup d'intensité. La plupart des équipes d'Allemagne mettent beaucoup d'intensité dans tous les matchs. Du coup, il va falloir être prêt dès le début parce que je pense que ça va être un match très serré dès le premier sifflet de l'arbitre.
Une rencontre qui s'annonce particulière également pour un jeune Français dans le camp en face. Stuttgart donc, Enzo Millot. Même s'il a été formé à Monaco, le milieu de terrain capitaine des espoirs tricolore a grandi en région parisienne et il garde un attachement profond pour le PSG. Enfin, peut-être pas ce soir quand même.
Effectivement, depuis tout petit, je supporte le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Paris est mon club de cœur, c'est ça. Après, forcément, c'est un enjeu particulier pour moi. Après, voilà, je suis professionnel et mon devoir, c'est de jouer là avec le VfB Stuttgart. Donc forcément, je vais me donner à 100% sur le terrain pour pouvoir apporter le résultat qu'il faut pour le club.
Enzo Millot de Stuttgart, enfin pour le club de Stuttgart face au PSG donc. Coup d'envoi 20h temps universel comme l'ensemble des matchs de la soirée. Notamment tiens, Brest-Real Madrid, Inter-Milan-Monaco ou encore Lille-Feyenoord. Trois clubs français déjà qualifiés pour la suite.
Et puis un autre grand d'Europe, hein, Olivier, qui est en sérieuse difficulté, c'est Manchester City.
Et même pour l'instant virtuellement éliminé, Clotilde. Une folie si ça devait être le cas. Pour éviter cela, il faut donc faire partie des 24 équipes hein, qui vont poursuivre leur route dans cette Ligue des Champions et pour en faire partie, les Citizens doivent battre le Club Bruges à domicile. Rien d'insurmontable, soyons honnêtes. Et même dos au mur, les Sky Blues sont plutôt confiants à l'image de leur défenseur croate, Josko Gvardiol.
Aujourd'hui, c'est évidemment une finale pour nous. On veut se qualifier pour la prochaine phase. Notre confiance est assez bonne, surtout après notre victoire de samedi contre Chelsea. On joue à la maison, on va recevoir beaucoup de soutien de la part de nos supporters, donc je pense qu'on sera prêt. Bruges est une bonne équipe, la preuve, elle joue cette Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile. Je l'ai affrontée il y a 3 ans avec Leipzig et à cette époque, elle était excellente. Ce sera un bon match. Bruges a besoin d'un point et nous d'une victoire pour se qualifier. Et on va tout faire pour la remporter.
Ouais, voilà pour ce City Bruges, le décor est planté, Clotilde, rendez-vous, on vous l'a dit, sur RFI, pour ne rien rater, 19h40, temps universel, Sofiane Amazian et Patrick Juillard notamment, vous recevront avec plaisir.
Voilà, sur RFI dans toute l'Europe, merci beaucoup Olivier Pron.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
39 millions de personnes vivaient avec le sida fin 2023 à travers le monde. Et l'un des programmes qui a permis de lutter contre le VIH est désormais en danger. La nouvelle administration Trump a décidé de geler l'aide américaine au développement à l'étranger. Et cette décision a des conséquences sur le PEPFAR, le President's Emergency Plan for AIDS Relief, le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida. Il a été créé en 2003 par George W. Bush et déployé dans 55 pays. Nous sommes en ligne avec Eric D'Ortenzio. Bonjour.
Oui, bonjour.
Médecin épidémiologiste à l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes, c'est une agence de l'INSERM. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est le PEPFAR, à quoi il a servi concrètement pendant cette vingtaine d'années?
Oui, ben donc vous l'avez dit, hein, le PEPFAR, c'est le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida. Donc c'est vraiment une initiative qui a été phare dans la lutte et dans la riposte mondiale contre l'infection à VIH. Et cela permet, entre autres et en grande partie, de fournir des médicaments aux personnes vivant avec le VIH, donc des antirétroviraux qui leur permettent de contrôler leur maladie et de vivre comme tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment un programme qui permet à des gens vivant avec le VIH de vivre normalement et d'avoir leur traitement gratuitement.
Et donc ce gel des financements qui étaient alloués à ce programme, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les conséquences immédiates pour les malades?
Oui, ben, donc nous sommes vraiment tous très préoccupés par les conséquences de cette suspension éventuelle de ce financement. Comme vous l'avez dit en introduction, il y a 40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, donc c'est encore une pandémie qui nécessite de la prévention et un contrôle par le biais de ces traitements. Et donc, si on arrête le financement, une des conséquences, c'est que les malades se retrouvent sans leur traitement. Ça veut dire que ces malades vont avoir des possibles infections opportunistes qui étaient contrôlées grâce à ce traitement et pourront développer des maladies, voire potentiellement en mourir. Donc ça, c'est une des conséquences au niveau individuel. Et après, au niveau santé publique, une autre conséquence, c'est que les malades, les personnes vivant avec le VIH, qui prennent bien leur traitement, ont une charge virale qui est contrôlée et donc ne transmettent plus le virus. S'ils arrêtent leur traitement, le virus se multiplie à nouveau et peut être transmis à nouveau au cours des relations sexuelles. Donc il y a un potentiel risque également d'une augmentation des contaminations au niveau mondial si les patients arrêtent leur traitement. Donc tous les efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années se retrouveraient complètement mis à mal par ces arrêts de traitement.
Effectivement, la communauté internationale s'était fixé l'objectif de mettre un terme au sida en 2030. Ça veut dire que désormais, c'est un objectif compromis?
Ah, c'est sûr que s'il y a vraiment une mise en œuvre et une application stricte de cette annonce, l'objectif de 2030 qui était un arrêt de la transmission du VIH est vraiment mis à mal, effectivement, et on a tous très peur de ces conséquences. Donc vous avez vu, même l'OMS a fait un communiqué demandant une exemption de cette mesure pour permettre aux personnes vivant avec le VIH d'avoir à disposition leur traitement pour la suite. Donc oui, les conséquences peuvent être vraiment dramatiques sur cette pandémie sida qui a atteint des niveaux de 40 millions, comme on disait, mais avec maintenant des traitements qui permettent de contrôler la maladie et de contrôler aussi la transmission. Donc si on arrête tout ça, c'est des efforts, des années d'efforts qui sont à l'eau.
Vous parliez effectivement des inquiétudes de l'Organisation mondiale de la santé, sauf que le problème, c'est que les États-Unis veulent aussi sortir de l'OMS. Donc ça veut dire que, en fait, voilà, les États-Unis, leur décision porte un coup total à la santé publique mondiale.
Oui, tout à fait. Ça, c'est dans la continuité. On avait eu les premières annonces sur l'arrêt du financement de l'OMS. Je rappelle que les États-Unis, c'est environ 15%, je crois, du budget de l'OMS. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui est considérable. Et donc, on voit bien les potentielles conséquences. On est dans un moment où on se prépare tous à une éventuelle autre pandémie, éventuellement avec ce H5N1. On est sous surveillance. Là, on assiste à un repli sur soi des États-Unis qui ne va pas arranger la communauté internationale pour faire face à une nouvelle pandémie qui n'a pas de frontières. Donc ça n'a pas de sens de faire toutes ces mesures si on veut lutter contre ces maladies qui n'ont pas de frontières. Et les conséquences de l'arrêt du VIH, je parlais tout à l'heure surtout de l'Afrique, parce que c'est la plupart des malades. Mais
l'Afrique, Haïti notamment, hein, qui dépendent effectivement Haïti, beaucoup de ce programme.
Et exactement. Mais il faut pas oublier que l'impact peut avoir ses conséquences aussi aux États-Unis. Hein, il faut pas non plus négliger ça. Donc il faut bien que cette administration prenne conscience de ces conséquences. Hein. C'est vraiment très très déplorable.
Mais en Afrique justement, effectivement, où beaucoup de pays dépendent beaucoup de ce programme, on se demande voilà comment est-ce qu'ils vont faire si jamais c'est arrêté.
Écoutez, là, il y a des discussions effectivement sur comment déjà on va mesurer l'impact et comment on peut prendre le relais. Alors, il y a d'autres organisations telles que le Fonds mondial, mais pareil, il y a une partie des financements du Fonds mondial qui dépend des États-Unis. Donc, il y a la prochaine reconstitution du Fonds mondial, je crois que c'est en 2026, qu'il faut voir comment ça va se passer. Le Fonds mondial permet aussi d'avoir des traitements. Et ensuite, je crois que chaque État doit aussi commencer à réfléchir au niveau national pour pallier à ça. Et peut-être que l'Europe aussi doit avoir un rôle à jouer.
Il n'y a pas que les États-Unis.
Oui, tout à fait. Je pense que l'Europe a aussi un rôle à jouer dans cette histoire pour essayer d'anticiper les conséquences et de potentiellement pallier à cette baisse des financements.
Merci beaucoup Eric D'Ortenzio d'avoir répondu à l'invitation de RFI ce midi. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à la NRS Maladies Infectieuses Émergentes, une agence de l'INSERM. Merci beaucoup.
RFI midi.
Un non au Mercosur. Voilà ce qu'on entendra dans l'après-midi ou dans la soirée dans les rangs de l'Assemblée nationale en France. À l'initiative du Parti socialiste, les députés vont examiner un texte qui prévoit de refuser tout accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Le projet divise toujours les 27. La France, inquiète pour sa filière agricole, y est hostile, tout comme la Pologne. Certains pays comme l'Italie sont plutôt réservés, quand d'autres y sont clairement favorables, comme l'Allemagne. De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, la filière bovine, notamment, espère que cet accord verra enfin le jour après plus de 20 ans de négociations. Reportage donc en Argentine du correspondant de RFI Théo Conscience.
8h du matin, la cloche sonne le début d'une nouvelle vente aux enchères au marché au bétail de Cañuelas. Perché sur une passerelle au-dessus des enclos de bovins, un homme décrit les caractéristiques des bêtes dans un mégaphone pour les vendre aux plus offrants. Nous sommes dans le plus grand marché au bétail d'Argentine. Ce jour-là, plus de 9000 vaches sont mises en vente pour le marché domestique, mais également international. Oscar Subarroca est négociant en bétail.
Nous vendons aux exportateurs des vaches de caractéristiques Hilton. Ce sont des bêtes de première qualité, très recherchées, et qui peuvent être vendues à l'Union européenne.
S'ils restent les premiers consommateurs de viande rouge au monde avec 42 kilos par an et par personne, les Argentins n'ont quasiment jamais consommé aussi peu de viande de bœuf que l'an passé, sur fond de crise économique et de pouvoir d'achat en berne. Dans ce contexte, le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui prévoit des baisses de taxes et l'ouverture de nouveaux quotas d'importation, pourrait réactiver la filière, selon Oscar Subarroca.
Notre cheptel national a diminué. Nous avons 51 millions de têtes de bétail contre 60 millions il y a encore quelques années. Cet accord pourrait inciter les éleveurs à recomposer leur cheptel afin de pouvoir exporter.
En attendant, certains éleveurs se préparent déjà pour le marché européen. C'est le cas de Carlos Montbalé, qui a un feedlot, un parc d'engraissement de quelques 100 000 bêtes non loin de Cañuelas.
Nos vaches sont très prisées sur le marché. Leur viande se retrouve sur les tables des meilleurs restaurants du pays. L'objectif final, c'est d'obtenir l'autorisation pour exporter.
Pour obtenir cette autorisation d'exporter, les producteurs doivent respecter certaines conditions. En Argentine, l'utilisation d'hormones de croissance est interdite depuis 2004 pour les vaches dont la viande est destinée au marché européen. Le poids et l'alimentation des bêtes est également régulé. Mais selon Carlos Montbalé, se conformer à ces normes n'est pas un problème.
Il n'y a pas besoin de faire de grands investissements. Il faut avoir une très bonne traçabilité et un régime sanitaire et alimentaire strict.
La question de la traçabilité est centrale du point de vue sanitaire, mais également en raison du règlement européen sur la déforestation. Dans le le nord de l'Argentine, l'avancée de la frontière agro-industrielle a fait disparaître plus de 100 000 hectares de forêt depuis le début de l'année, selon Greenpeace. Théo Conscience, de retour de Cañuelas, RFI.
La reportage est réécoutée sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Restez avec nous dans un instant, le retour de l'actualité africaine.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes dans Couleur Tropicale ce jeudi 30 janvier, mais aussi sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com et jusqu'au 16 février. À vous de voter.